Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأس ساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce mercredi 7 décembre 2022. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. Téhéran est présent partout où ses intérêts nationaux sont préservés. Déclaration du ministre iranien des Affaires étrangères. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, les États-Unis, le régime le plus dictatorial du monde, déclaration de ce mercredi matin du président iranien à l'occasion de la journée des étudiants. Eutelsat notifie à Presse TV son projet de suppression de la chaîne satellite. Et puis l'Iran affirme avoir démantelé un certain nombre de cellules opérationnelles affiliées à l'organisation terroriste de l'OMK. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Lors de la cérémonie de la commémoration de la Journée nationale des étudiants, ce mercredi à l'Université de Téhéran, le président iranien Ebrahim Raisi a rappelé que les Américains cherchent la destruction de l'Iran et ils veulent voir un Iran détruit au lieu d'un Iran fort et a souligné « Ils veulent que notre pays devienne la Syrie et l'Afghanistan, mais ils ont fait une erreur de calcul et les Iraniens et les Iraniennes ne leur permettront pas de le faire. » Lors de la cérémonie de la commémoration de la Journée nationale des étudiants à l'Université de Téhéran, le président Raisi a qualifié les universités de moteurs du progrès dans le pays et a ajouté « Les Américains voulaient arrêter notre progrès et nous n'avons jamais permis que le progrès du pays s'arrête. » Quant aux relations avec nos pays voisins, ils ont dit que nous ne vous permettrions pas de faire du commerce jusqu'à ce que vous deveniez membre du groupe d'action financière GAFI. Mais pendant ce temps, vous avez tous vu que notre lien avec les pays de la région et infrastructures commerciales de la région, comme Shanghai et l'Eurasie, ont été activés, a-t-il ajouté. Énumérant les réalisations du 13e gouvernement, le président Raisi a indiqué « Aujourd'hui, nos ventes de pétrole atteignent le niveau d'avant même les sanctions. Des centaines d'unités de production ont été restaurées. La croissance économique a été de 0,4%, mais elle a atteint 5% au début de cette année. Ils voulaient nous arrêter de diverses manières, comme par exemple en suscitant le mécontentement du peuple et s'attardant sur les exigences du peuple. Mais par la grâce de Dieu, nous ne nous sommes pas arrêtés. » Énumérant les réalisations économiques du 13e gouvernement, le président iranien a noté le développement des relations commerciales avec la région et a déclaré « L'ennemi veut que l'Iran ne soit pas fort, mais notre peuple et nos étudiants l'ont vaincu. Aujourd'hui, l'Iran produit et exporte 6 types de vaccins et les sanctions de l'ennemi ne nous ont pas empêchés d'avancer », s'est-il félicité. L'opérateur satellite français Eutelsat a notifié à Presse TV un projet de suppression du réseau d'information en anglais quelques semaines après que l'Union européenne a imposé des sanctions aux diffuseurs basés à Téhéran. Le 14 novembre, l'Union européenne a imposé des sanctions à un certain nombre d'institutions ou d'individus iraniens, dont Presse TV, pour des violations soi-disant des droits présumés à la suite des récentes émeutes soutenues par l'étranger dans le pays. Les experts estiment que les sanctions imposées à Presse TV par l'Union européenne et plutôt par le gouvernement du Canada visent à museler la liberté d'expression et les opinions alternatives. Ils ont également souligné le rôle joué par Presse TV lors des récentes émeutes, la chaîne d'information ayant fait de gros efforts pour contrer les faux récits entretenus par les médias occidentaux. Eutelsat est un opérateur satellite français qui couvre l'ensemble du continent européen, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie et les Amériques. C'est le troisième opérateur mondial de satellites en termes de revenus. L'Iran affirme avoir démantelé un certain nombre de cellules opérationnelles affiliées à l'organisation terroriste OMK. Dans un communiqué, le ministère des Renseignements a déclaré que des cellules de saboteurs avaient été détruites à Téhéran, à Isfahan et dans les provinces du Kurdistan. Il a dit que les éléments de ces cellules avaient été arrêtés, ajoutant qu'ils étaient impliqués dans des activités terroristes et des attaques aux mortiers sur les centres administratifs, militaires, policiers, résidentiels de l'Iran. Lors d'une série d'opérations terroristes, les membres de ces cellules ont lancé des grenades improvisées sur des rassemblements de personnes, ont lancé des attaques aux mortiers sur les centres subventionnés et ont comploté pour mener de nombreuses autres attaques brutales, selon le communiqué du ministère. Le ministère a déclaré que ces activités terroristes ont causé des dommages et visé à répandre l'insécurité dans le pays. Le ministère des Renseignements a déclaré que toutes ces activités terroristes ont été directement guidées par la base européenne du groupe terroriste OMK, située en Albanie, ajoutant que ces opérations ont impliqué même les anciens membres du groupe terroriste OMK qui avaient été graciés ou dont les peines avaient été commuées par la République islamique d'Iran dans les années 1980. Fin de ce journal, merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Téhéran est présent partout où ses intérêts nationaux sont préservés. Déclaration du ministre iranien des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que l'Iran rejette tout accord qui ne servirait pas les intérêts du pays. Nous ne recherchons pas un accord qui n'est pas durable et qui ne profite pas aux Iraniens. Nos lignes rouges ne sont définitivement que la garantie des intérêts de la nation iranienne, a déclaré Amir Abdollahian lors d'une réunion lundi 5 décembre à Belgrade avec des ressortissants iraniens résidant en Serbie. Il a également déclaré qu'en dépit des sanctions injustes de l'Occident, l'Iran est dans de bonnes conditions en ce qui concerne ses exportations pétrolières et non pétrolières. Les pourparlers pour sauver le plan global d'action conjoint PGAC, autrement dit l'accord nucléaire de 2015, ont débuté dans la capitale autrichienne Vienne en avril de l'année dernière, avec l'intention d'examiner le sérieux de Washington à rejoindre l'accord et à lever les sanctions anti-iraniennes imposées et réimposées par l'administration de Trump et ensuite celle de Joe Biden. Les pourparlers sont en point mort depuis août, étant donné que Washington a continué d'insister sur sa position impitoyable de ne pas lever toutes les sanctions imposées à la République islamique par la précédente administration américaine. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a réitéré lundi l'engagement de la République islamique envers les pourparlers sur la relance du PGAC, rappelant que Téhéran n'était pas pourtant disposé à négocier sous la pression et les menaces. Ailleurs dans ses remarques, Amir Abdollahian a déclaré que sa visite de 2 jours en Serbie visait à accélérer le renforcement des relations bilatérales. Il a exprimé l'espoir qu'un nouveau chapitre s'ouvrirait dans les relations des deux pays après une visite prévue du président serbe à Téhéran. La politique étrangère équilibrée de l'Iran est basée sur un déplacement vers les pays voisins et asiatiques, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, soulignant que Téhéran est présent partout où ses intérêts nationaux sont préservés. « Nous sommes présents à l'ouest et à l'est en fonction de nos intérêts », a déclaré le chef de la diplomatie iranienne. Évoquant les troubles en Iran qui ont été déclenchés suite à la mort de la jeune femme iranienne Mahsa Amini il y a plus de 2 mois, Amir Abdollahian a émis de sérieux doutes quant aux compassions manifestées par des responsables occidentaux. Il a fait savoir qu'un ressortissant occidental avait été arrêté en Iran, affirmant qu'il avait été chargé par les services de renseignement de son pays de semer le chaos dans tout l'Iran pour ainsi contraindre Téhéran à accepter les conditions de l'Occident une fois mise à la table des négociations sur la relance du PGAC. Les revendications pacifiques doivent être satisfaites dans le cadre des devoirs de la République islamique d'Iran et de la Constitution, a souligné Hossein Amir Abdollahian. Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran a vivement déploré la mort de 67 membres des forces de la police iranienne, celles qui n'étaient pas autorisées à utiliser des armes létales, tout en évoquant des milliers d'autres victimes qui ont trouvé la mort ou ont été blessées par des armes américaines et israéliennes lors des émeutes. Selon le très haut diplomate iranien, les États-Unis et certains de leurs alliés occidentaux ont divisé le terrorisme et les émeutes en bien et mal. Si des émeutes se produisent avec des armes à feu en Iran, elles sont bonnes, a-t-il déclaré sur un ton ironique. Dimanche 4 décembre, dans des commentaires similaires, le porte-parole de la diplomatie iranienne, Nasser Kanani, s'en est pris aux responsables occidentaux pour avoir encouragé les émeutiers dans des États indépendants, tout en réprimant les manifestants pacifiques dans leur propre pays. Des manifestations ont éclaté le 16 septembre dans plusieurs villes iraniennes après la mort de Mahsa Amini, une Iranienne de 22 ans, décédée à l'hôpital 3 jours après son arrestation par la police des mœurs. Selon le rapport de l'Organisation iranienne de médecine légale, la mort de Mahsa Amini a été causée par une maladie. Malgré les éclaircissements des responsables iraniens sur les circonstances entourant la mort de la jeune femme, de violentes manifestations de rue ont conduit à des attaques contre des agents de sécurité et à des actes de vandalisme contre des biens publics et des lieux sacrés. Pendant ce temps, la République islamique a vivement critiqué certains pays occidentaux pour avoir provoqué les émeutes par le biais de leurs agences d'espionnage et de leur propagande médiatique, en particulier Londres, qui héberge plusieurs réseaux anti-iraniens persanophones, dont la chaîne de télévision Iran International, Manoto et BBC Persan.
Bonjour à tous, bienvenue sur nos plateaux de télévision de Presse TV à partir de la capitale iranienne, Téhéran. aujourd'hui un sujet qui rejoint le sujet de la Coupe du Monde de football 2000 de cette année au Qatar à Doha. Cette Coupe du Monde a été peut-être une des Coupes du Monde la plus politisée qu'on a pu voir durant ces différentes générations de Coupe du Monde. En effet, la Coupe du Monde a été touchée par la crise ukrainienne et la Russie. Elle a été également touchée par ce qui s'est passé au Moyen-Orient. Et on a vu également la présence énorme et la réaction de gens pro-palestiniens, rejetant même les journalistes israéliens présents ou même les Israéliens voulant être présents pour la Coupe du Monde. C'est le sujet de débat c'est le sujet de débat d'aujourd'hui. Je vous propose pour commencer donc le reportage que nous avons préparé. Par la suite, nous allons accueillir nos invités. Tout de suite, le reportage.
Le sous-secrétaire général du Hezbollah libanais a fait allusion à la forte présence de la cause palestinienne dans la Coupe du monde de football du Qatar et au rejet réservé par les représentants des pays musulmans aux Israéliens dans la foulée de cet événement international. Cela est le signe d'un rejet total pour l'existence même du régime sioniste, a affirmé le cher Naïm Rassem. Selon le site d'information Al Ahed News, le sous-secrétaire général du Hezbollah, le cher Naïm Rassem, a affirmé que les scènes montrant des citoyens arabes qui évitent la rencontre avec les journalistes israéliens au cours de la Coupe du Monde du Qatar sont le signe que les peuples de la région ne valident pas la décision de leurs gouvernements respectifs de normaliser leurs relations avec l'ennemi. La résistance de la jeune génération face à la normalisation prouve qu'il existe dans notre région un refus primordial envers l'existence même du régime israélien, a précisé le sous-secrétaire général du Hezbollah libanais. Alors que certains États arabes ont trahi la cause palestinienne et lancé un processus de compromis avec le régime occupant sioniste, des nations arabes ont montré à travers la Coupe du Monde qu'elles ne suivent pas le chemin tracé par leurs dirigeants respectifs et qu'elles soutiennent toujours le peuple palestinien face aux occupants. La Coupe du Monde de football 2022 ayant lieu au Qatar a révélé des scènes d'appui à la cause palestinienne avec, entre autres, des spectateurs arabes qui brandissent le drapeau palestinien, profèrent des slogans en signe de solidarité avec le peuple opprimé palestinien et refusent de parler aux médias israéliens. En effet, tous les Israéliens et pas seulement les journalistes ayant fait le déplacement à destination du Qatar à l'occasion de la Coupe du Monde de football ont plus ou moins reconnu y avoir éprouvé ce sentiment de rejet. À ce sujet, un média israélien a écrit « La Coupe du Monde du Qatar est un miroir qui reflète la véritable place des Israéliens auprès des peuples de la région. Ils ne nous aiment pas, ils ne veulent plus de nous. »
Nous revoilà sur les plateaux, donc nous allons faire venir donc nos deux invités. Nous allons commencer par le docteur Rada Obola, à partir du Liban, à Beyrouth. Bonjour madame Rada Obola.
Oui, bonjour. Et bonjour à votre invité et à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Presse TV.
Merci d'avoir bien accepté d'être notre experte du jour. Notre deuxième invité étant monsieur Ahmad Rami, directeur de Radio Islam, basé à Stockholm. Bonjour monsieur Rami.
Bonjour et salut à tous les auditeurs.
Alors aujourd'hui, un sujet qui fait chaud au cœur, j'ai envie de dire, vu la situation palestinienne qui est extrêmement difficile, c'est la présence énorme des drapeaux et des signes palestiniens durant cette Coupe du Monde de football qu'on savait déjà énormément politisée, qui est la première Coupe du Monde à être présent dans un pays musulman, à être accueillie par un pays musulman, à cet événement mondial. Alors on va commencer par madame le docteur Obola. Que pensez-vous donc cette présence de ces remarques, mais également de gens qui s'en sont pris donc, à la télévision de l'entité sioniste pour leur dire il n'y a que la Palestine, il n'y a pas d'autres pays sur le territoire palestinien. Que pensez-vous de ces réactions qui n'ont été pas finalement mineures hein. Ce sont des réactions qu'on a pu voir dès le premier jour de cette Coupe du Monde.
Oui, alors, concernant la Coupe du Monde en tant que telle, il y a à peu près, je crois, 10 ans, non, 20 ans, la revue Hérodote avait publié un article selon lequel elle intitulait « Le sport, instrument géopolitique ». À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'événements géopolitiques aussi présents. Mais avec cette Coupe du Monde, il y a eu plusieurs facteurs qui ont contribué justement à renforcer l'image géopolitique de cette Coupe du Monde. Comme vous l'avez bien souligné dans votre vidéo, d'abord, et vous l'avez rappelé, d'abord la Coupe du Monde a eu lieu dans un pays arabe. Bon, premièrement. Deuxièmement, donc, ça, qui porte donc une signification symbolique. L'enjeu pour Qatar était de montrer qu'un pays arabe était capable, même s'il vit sur ses pétrodollars, donc il a la capacité matérielle et financière, mais en plus il a la capacité au niveau du personnel. Et donc il est capable d'organiser un événement international aussi important. Premièrement, et donc et là il faut un effort au niveau des infrastructures, etc. Le deuxième enjeu, et ça c'était très important, comme vous le savez, et là je vais peut-être sortir de ma logique dans laquelle vous vous êtes habitué à Presse TV, parce que justement l'événement est très important. La deuxième symbolique, c'est que avant la date prévue de cet événement, une campagne a été justement déclenchée contre le Qatar sous le titre des droits de l'homme. Et donc, sous ce titre, que le Qatar refuse d'accueillir les homosexuels, donc c'est une violation aux droits de l'homme. Ensuite, avant, ils avaient considéré qu'il y avait une maltraitance au niveau des ouvriers qui ont travaillé justement. Sur les chantiers, etc., etc. Donc toute une campagne qui a été déclenchée et surtout par les médias, par certains médias occidentaux, pas par tous les médias occidentaux. Je parle surtout des médias qui sont qui sont pro-sionistes. Et après, donc, je ne sais pas si c'était pas vraiment par une coïncidence, mais l'ouverture de cet événement. Était une réponse cinglante justement à cette campagne, à savoir que par un verset coranique qui appelle justement que les peuples sont égaux entre eux et que cela est justement est inscrit dans le Coran. Et le deuxième point. Vous devez me laisser un petit peu le temps, s'il vous plaît. Le troisième point. C'était avec un des premiers matchs qui est l'Arabie Saoudite qui a vaincu l'Argentine. Là aussi, il faut voir ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux. Bon, l'Arabie Saoudite, je ne parle pas du régime, parlons clairement du peuple saoudien. Okay? Donc, si je mets à part le régime, d'abord, sur le drapeau de ce royaume, il est marqué Mohammed le prophète. Et or, si vous revenez à toutes les campagnes caricaturales contre le prophète, il n'y a pas une distinction si c'est chiite, sunnite, il y a une diffamation contre le prophète. Quand vous avez un peuple qui brandit ce drapeau contre l'Argentine, qui est connu l'Argentine, où il y a beaucoup qui est pro-sioniste, bon, là aussi, ça a déclenché une certaine effervescence au niveau des réseaux sociaux. Et ensuite, vous avez pas mal de pays arabes qui ont réussi à dépasser le premier tour et qui brandissaient et qui sont connus pour avoir défendu la cause palestinienne. Et donc, la Coupe du Monde, à mon avis, est devenue la Coupe de la Palestine, la Coupe de la cause palestinienne. Et donc, cela a été choquant pour les journalistes israéliens. Et certains responsables de l'establishment militaire israélien ont bien souligné que nous, on était conscients de ça, ils ont avoué. Mais l'opinion publique israélienne n'était pas consciente parce qu'on avait tenté de cacher cela à travers justement la campagne de normalisation qui a été faite avec certains pays. Mais c'est une normalisation au niveau des régimes et non pas au niveau des peuples. Donc même le Qatari, le Saoudien, le Tunisien, vous avez tous les Arabes de toutes les régions, que ce soit de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, des pays du Golfe, tous les peuples brandissaient le drapeau de la Palestine.
Il y a beaucoup de présence libanaise aussi durant cette Coupe du Monde, il ne faut pas l'oublier. Beaucoup de présence libanaise. Et ce qui est également intéressant, c'est qu'il faudrait regarder historiquement la présence en Coupe du Monde de football de pays africains et du Moyen-Orient. Je pense que c'est la première fois, je ne veux pas me tromper, je n'ai pas vérifié cette information, comme quoi il y a deux pays du Moyen-Orient que présents pour la Coupe du Monde, également plusieurs pays d'Afrique du Nord et d'Afrique également présents à cette Coupe du Monde. Donc c'est vrai que c'est extrêmement intéressant. Pour venir à notre deuxième invité, Ahmad Rami, que pensez-vous donc de cette chaleur finalement des peuples, comme vient de conclure le docteur Obola, ce revirement en disant voilà, nous sommes le peuple et voilà ce que nous pensons de la Palestine et il n'y a que la Palestine. Que pensez-vous de ce message fort de cette Coupe du Monde?
Oui, là où il y a des Arabes, des musulmans, et il y a aussi là où il y a l'être humain, il y a bien sûr la question palestinienne qui est une question centrale dans la politique internationale, dans la politique arabe, car dans ce domaine, il y a aussi un match politique qui est joué entre le bien et le mal, c'est-à-dire entre la question palestinienne et la résistance palestinienne, qu'il ne faut pas oublier, et l'occupation sioniste de la Palestine qui a duré maintenant depuis 1948. Et maintenant, en réalité, la propagande sioniste veut transformer justement les matchs de football en drogue dont on veut qu'il contribue à oublier les véritables problèmes et à se concentrer sur le football, c'est-à-dire sur le match de football.
Ça s'est retourné un peu contre eux sans cette Coupe du Monde, parce que dès le premier jour, dans les rues de Doha, lorsqu'il y a eu le lancement même de cette Coupe du Monde, les drapeaux, eux, palestiniens, étaient bien là. Plusieurs médias, dont nous-mêmes avons diffusé ces images, ça se retourne un petit peu contre eux. Je suis bien d'accord avec ce que vous venez de dire, monsieur Rami. Mais pour cette Coupe du Monde qui est extrêmement politisée, moi, je ne me rappelle pas avoir vu une Coupe du Monde aussi politisée. Je veux dire, la présence politique, le discours politique est dans cette Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, justement, c'est ce que je voulais dire aussi, ce que je voulais conclure, c'est que ça, bien sûr, a contrarié les plans de la propagande sioniste. C'est-à-dire qu'en réalité, pour les peuples arabes et les peuples musulmans et pour les peuples du monde entier, ce qui est normal, c'est la justice. L'injustice est anormale. Donc, essayer de normaliser avec l'occupation sioniste et l'entité sioniste est contre nature. Et c'est pour cela que là où il y a des êtres humains, c'est-à-dire des êtres musulmans et arabes, dans le football, dans la rue, il y a bien sûr aussi la question palestinienne et les questions du monde musulman dont la question palestinienne est la question centrale. Donc c'est ce qui est normalisé avec la lutte contre le sionisme et la résistance. Et c'est ce qui est maintenant la résistance, bien sûr il y a la résistance militaire en Palestine qui est occupée militairement, mais il y a aussi la résistance médiatique, sportive. Et dans les matchs et la Coupe du Monde, il y a toujours cette lutte. Parce que dans cette lutte, il y a la campagne, l'armée, entre guillemets, sioniste, qui veut faire oublier la question palestinienne et occuper l'opinion publique, et aussi la résistance du peuple palestinien, la résistance des pays musulmans et la résistance de toute l'humanité qui lutte pour la justice contre cette occupation. Et cette occupation, comme j'ai dit, ce n'est pas seulement l'occupation militaire, mais c'est aussi le monde d'aujourd'hui est occupé par la propagande sioniste. Et parmi, dans ce domaine du monde, dans le monde, les matchs c'est-à-dire les matchs, comme les matchs de football et ce qui s'est déroulé à Qatar dernièrement.
Merci, Monsieur Rami. Docteur Obola, alors vous êtes au Liban. Est-ce que ça fait chaud au cœur? Parce qu'on sait comment le Liban essaye d'aider les Palestiniens et la cause palestinienne tous les jours, depuis de nombreuses années. Quelles sont les réactions donc, des Libanais qui connaissent ce conflit depuis trop longtemps déjà, qui ont vu beaucoup des leurs mourir pour cette cause? Qu'est-ce que vous pensez donc, de cette image des peuples pro-palestiniennes et qui se fait entendre surtout?
Écoutez, déjà le Liban souffre d'une division horizontale et voire verticale au niveau justement de la cause palestinienne. Certains considèrent que qu'est-ce qu'on a à faire avec cette cause palestinienne ne se sentent pas du tout concernés par cette affaire, alors que d'autres, au contraire, se considèrent concernés par cette affaire. Donc, les réactions sont bien entendu mitigées. Mais cela dit, les Libanais, plutôt l'opinion publique libanaise, voire les médias, et ça c'est au niveau également des médias arabes, c'est que tous sont d'accord que, vous savez, le sport, il faut rappeler, le sport, je veux dire le football, la face positive de la mondialisation. Donc, ce qui s'est passé avec le fait de brandir des drapeaux palestiniens, vous avez mondialisé à nouveau la cause palestinienne. Donc, on ne peut pas y échapper. Qu'on le veuille ou non, on ne peut pas y échapper. Donc, premièrement. Et donc, deuxièmement, au niveau du Liban, pour revenir à votre question, même ceux qui ne se sont pas concernés par la cause palestinienne, au contraire, là maintenant, ils sont en train de découvrir peut-être, comme les Occidentaux et les Israéliens, qu'au niveau des peuples, il n'y a pas de normalisation, même concernant les peuples qui sont des pays du Golfe, et que souvent ces pays du Golfe sont accusés d'avoir normalisé justement, d'avoir été les premiers à encourager la normalisation. Je ne veux pas entrer dans les causes de cette normalisation, la normalisation avec l'entité sioniste. Donc, au niveau des peuples, donc, quand on voit que ce sont les peuples qui décident si oui ou non la cause palestinienne se poursuit, si oui ou non l'entité sioniste doit persister, ou au contraire doit être éradiquée, ce n'est plus une question qui est liée à un axe. C'est ce que la Coupe du Monde de 2022 a fait découvrir à tous les médias dans le monde. C'est que cette cause palestinienne n'appartient pas à un axe qui est connu sous le nom de l'axe de la résistance, dirigé par la République islamique de l'Iran, avec le Hezbollah, le Liban, la Syrie, l'Irak, etc. Ce n'est pas une cause, elle n'appartient pas à un axe ou bien à un parti. Elle appartient au peuple. Et donc, les peuples ont donné ont hissé leur voix et ils ont exprimé leur avis sur cette question. Point à la ligne.
Merci, docteur. Une autre question, est-ce que ce genre de réaction, parce que certains experts estiment que l'entité sioniste fait du charme à l'Arabie Saoudite, que l'Arabie Saoudite n'y va pas franc jeu, mais et pourrait être sur le point de normaliser, comme dit l'expression, est-ce que vous pensez que ce genre donc, de tapage médiatique peut freiner l'envie de l'Arabie Saoudite et donc de Ben Salman, j'ai envie de dire, de freiner cette envie de normalisation avec l'entité sioniste?
Alors, si vous me donnez un petit peu de temps pour analyser géopolitiquement, c'est-à-dire pour tenter de dévoiler la représentation géopolitique de Mohammed Ben Salman en tant que futur roi, parce qu'il ne faut pas oublier, tout ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de préparer le terrain pour devenir roi, et quand il sera roi, il n'aura plus de problème. On sait très bien comment il a éradiqué l'opposition, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. À l'intérieur avec les anciens princes, et à l'extérieur avec l'exemple de l'affaire Khashoggi. Bon, ensuite, il est passé, étant donné qu'il y a 80% de la population saoudienne fait partie de la jeunesse, parmi ces 80%, il y a à peu près 60% qui sont des femmes. Donc, bien entendu, pour pouvoir gagner leur voix ou leur soutien, pour que son pouvoir soit légitime et accepté par cette génération, il était obligé donc également d'éradiquer ce qu'on appelle le clergé religieux wahhabite. C'est ce qu'il a fait. Ensuite, il a ouvert, si j'ose dire, les portes des droits libres, des droits de liberté individuelle. Et donc, quand vous voyez les femmes et les hommes et la jeunesse saoudienne qui se rend au mondial et qui remercie, qu'on soit pour ou avec, finalement, c'est un peuple qui exprime son droit de s'exprimer envers son royaume. Je ne peux pas intervenir là-dessus, mais je prends les faits tels qu'elles sont. Quand vous avez, que ce soit la jeunesse féminine ou la jeunesse masculine, expriment leur soutien à Mohamed Ben Salman pour les avoir, et expriment, surtout, ils ont exprimé une loyauté envers l'équipe de football saoudienne, mais en même temps, ce même jeune qui exprime sa loyauté envers Mohamed Ben Salman, qui avec son équipe, il exprime à la fois son soutien à la cause palestinienne. Vous pensez vraiment que Mohamed Ben Salman va perdre ses voix, cette jeunesse? Ça, je parle des conséquences de ce mondial sur la politique de Mohamed Ben Salman. Or, ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, vous pensez vraiment que Mohamed Ben Salman, qui est en fait l'héritier de quoi? D'un royaume, mais ce royaume, il est connu sous quoi? Le serviteur des Haramain. Donc, vous avez toute une... La Mecque est tout un symbole. C'est tout un symbole. Vous croyez qu'il va perdre les milliards de musulmans et faire une normalisation officielle avec l'entité sioniste? Oui, il y a une normalisation officieuse. Mais je ne crois pas qu'il va faire une normalisation officielle pour ces deux raisons. Une raison symbolique, religieuse, qui constitue un pilier de la représentation géopolitique saoudienne, et une raison sociale, culturelle, qui est en relation avec la jeunesse saoudienne, le peuple saoudien.
Merci, docteur Oubola. Je rappelle, à partir directement de Beyrouth, du Liban. Merci à monsieur Ahmad Rami, directeur de Radio Islam, basé à Stockholm, de nous avoir donné votre expertise concernant donc cet événement mondial, qui est donc la Coupe du Monde. Je vous remercie encore pour votre expertise. Je remercie vous, auditeurs, de nous suivre sur Presse TV français. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à nous suivre sur Telegram, les différents réseaux sociaux que nous possédons. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ici, à partir de la capitale de l'Iran. Au revoir.
Auditeurs, merci d'être avec nous. Bienvenue au programme portant sur l'actualité de l'Asie de l'Ouest. L'Iran a annoncé la découverte de nouvelles réserves de pétrole dans le sud-ouest du pays, dont les détails seront divulgués bientôt par le ministre du pétrole, Javad Oji, selon un communiqué de la Compagnie nationale du pétrole. Des experts iraniens ont également effectué des diagraphies de puits sur un bloc d'exploration offshore dans le golfe Persique avec des réserves de gaz estimées à 30 billions de pieds cubes. Annoncé mardi 6 décembre, le directeur de l'exploration à la NIOC, Compagnie nationale du pétrole iranien, Mehdi Fakhour. Pour la première fois, nous avons réalisé la méthode de magnétométrie aérienne qui est effectuée jusqu'à une profondeur de 7000 mètres pour détecter les gisements d'hydrocarbures, a déclaré le responsable. La technique consiste à utiliser des aéronefs sans pilote et des magnétomètres équipés de systèmes de coordonnées géoréférencées et d'autres instruments de navigation pour effectuer des balayages magnétiques. Fakhour a déclaré que la conception de l'avion avait été réalisée par des scientifiques iraniens et que l'avion était utilisé pour collecter des données. Un dixième de la superficie du pays doit être arpenté par cet avion, a-t-il déclaré. Fakhour a ajouté, Peu de personnes dans le monde ont la capacité de piloter un tel avion qui doit voler à basse altitude, 600 mètres au-dessus du sol, dans des conditions particulières. Un Iranien de 30 ans formé dans le pays accomplira ses tâches dans les montagnes du Zagros. La plupart des gisements de pétrole et de gaz de l'Iran se trouvent dans une ceinture longeant sa frontière maritime dans le golfe Persique et les contreforts des monts Zagros, une vaste zone plissée qui est géologiquement le résultat de la collision de la plaque arabique avec le plateau central iranien. La zone montagneuse du Zagros couvre plus de 550 000 km², s'étendant de la Turquie et de la Syrie à travers le Kurdistan irakien jusqu'en Iran où ses sédiments mesurent idéalement jusqu'à 12 000 mètres d'épaisseur. Quelques 23 champs d'hydrocarbures iraniens se trouvent dans des zones frontalières et sont partagés entre l'Iran et les pays voisins, dont le Koweït, l'Irak, le Qatar, Bahreïn, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Turkménistan. Les réserves prouvées de pétrole de l'Iran d'au moins 160 milliards de barils représentent près de 10% du total mondial et le classement au quatrième rang après le Venezuela, l'Arabie saoudite et le Canada. Le pays possède également les plus grandes réserves confirmées de gaz au monde, soit près de 34 000 milliards de mètres cubes représentant 18% du total mondial. Les ressources pétrolières et gazières de l'Iran sont également parmi les plus attrayantes au monde d'un point de vue économique. Selon l'agence de presse Reuters, les puits de pétrole iraniens détiennent le record mondial de la moyenne de production la plus élevée de 10 000 barils par jour. Les secteurs du gaz et du pétrole sont cependant en première ligne dans la lutte contre la pression maximale que l'ancien président américain Donald Trump a principalement exercée dans le but de ramener à zéro les exportations du pays. Les sanctions ont poussé l'Iran, en particulier dans l'industrie pétrolière, à se tourner vers les ressources nationales et à accomplir certaines tâches qui étaient le monopole des entreprises étrangères pendant des décennies. Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sali, a déclaré que le Yémen a atteint un niveau de capacité militaire qui lui permet de répondre à l'agression de l'ennemi avec une puissance de feu remarquable. Auparavant, l'ennemi bombardait Sanaa et d'autres provinces, mais aujourd'hui, nous sommes en mesure de riposter à toute frappe avec des dizaines de missiles et drones, a dit le général Sali dimanche 4 décembre au micro de la chaîne d'information yéménite Al-Masira. Le général Sali a confirmé que la récente équation de dissuasion imposée par les forces armées yéménites dans le cadre de leur mission de protection de la richesse souveraine du pétrole et du gaz a prouvé son efficacité. La dissuasion et la mission de surveillance des forces armées yéménites ont prouvé leur efficacité. Le porte-parole des forces armées yéménites a considéré les efforts des forces armées pour affronter l'ennemi comme une lutte sainte. Il a également rendu hommage aux martyrs qui ont aidé à renforcer la sécurité et la stabilité dont jouit le Yémen aujourd'hui. Le peuple yéménite est fier du courage et du sacrifice dont ont fait preuve les martyrs, a-t-il dit. Appuyé par des soutiens logistiques et militaires des États-Unis et d'un certain nombre de pays occidentaux et en collaboration de ses alliés arabes, l'Arabie saoudite a lancé une guerre dévastatrice contre le Yémen en mars 2015. L'objectif en était de réinstaller au pouvoir l'ancien régime yéménite affilié à Riyad et à Washington et d'en finir avec le mouvement de la résistance Ansar Allah qui gère actuellement les affaires de l'État en l'absence d'un gouvernement fonctionnel au Yémen. Malgré le massacre des centaines de milliers de yéménites, la coalition dirigée par l'Arabie saoudite n'a atteint aucun de ses objectifs. Cette guerre d'usure a engendré la pire crise humanitaire au monde selon les Nations Unies. Les mouvements de résistance palestiniens, Hamas et djihad islamique, basés dans la bande de Gaza, ont condamné dans les termes les plus vifs la visite en cours à Bahreïn du président du régime sioniste. Le responsable du Hamas, Bassim Naïm, et le porte-parole du djihad islamique, Tahrir Salmi, ont condamné dimanche 4 décembre la visite d'Isaac Herzog à Bahreïn, quelques heures après son arrivée à Manama. Il devient ainsi le premier président israélien à se rendre dans le royaume. Bahreïn a signé un accord de normalisation négocié par les États-Unis avec le régime sioniste lors d'un événement organisé par la Maison-Blanche en septembre 2020. Depuis, les régimes de Manama et de Tel Aviv tentent de cimenter la soi-disant détente qui a été dénoncée par les Palestiniens et leurs partisans régionaux et internationaux, qui la jugent comme un coup de poignard dans le dos de la cause palestinienne. Bassim Naïm a qualifié la visite d'ignominieuse et a dénoncé la tentative du roi de Bahreïn, Ahmed bin Issa al-Khalifa, d'accueillir le chef d'un régime apartheid, qui dirige la plus grande structure terroriste du monde, la jugeant pathétique, a rapporté l'agence de presse palestinienne Shahab. Le monarque bahreïni reçoit le président israélien alors que les forces du régime sioniste continuent d'exécuter des Palestiniens dans les territoires occupés et que leur sang coule comme une rivière. La visite est également concomitante avec les violations continues de Tel Aviv contre les lieux sacrés du monde musulman, en particulier l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa, le troisième lieu saint de l'islam, a ajouté Naïm. Le responsable du djihad islamique, quant à lui, a présenté le voyage d'Herzog comme une démarche visant à détourner l'attention de l'opinion publique mondiale des atrocités et des actes de terreur du régime sioniste. Tahrir Salmi a salué la nation bahreïni et a appelé toutes les nations arabo-musulmanes à élever la voix contre toute normalisation des relations avec le régime sioniste et les ingérences de ce dernier. En signe de contestation à la visite d'Isaac Herzog, les Bahreïnis ont organisé dimanche 4 décembre des manifestations dans tout le pays pour réitérer leur soutien à la Palestine et condamner la normalisation des relations diplomatiques avec le régime de Tel Aviv. Une organisation de défense des droits de l'homme affirme que la justice saoudienne a condamné à mort 6 autres prisonniers d'opinion, alors que le royaume recourt à des procès secrets et à des décisions controversées pour réprimer davantage les prisonniers politiques et éventuellement les éliminer. L'organisation de défense des droits de l'homme, Sanad, qui défend les droits politiques et civils en Arabie saoudite, a déclaré que ces sentences avaient été prononcées sans tenir compte des critiques de la communauté internationale qui se dit contre les exécutions arbitraires des citoyens saoudiens par le gouvernement de Riyad. Selon ce groupe de défense des droits de l'homme, le nombre de personnes condamnées à mort par le gouvernement de Riyad est passé à 59. Cette hausse en nombre de condamnés à mort survient alors que le gouvernement saoudien ignore les protestations des organisations de défense des droits de l'homme qui exigent l'arrêt immédiat des exécutions en Arabie saoudite. Fin octobre, l'Organisation saoudienne européenne pour les droits de l'homme, OSOHR, a déclaré dans un rapport que les tribunaux saoudiens avaient reconnu coupables et condamnés à mort plus d'une douzaine de militants anti-régime à l'issue de procès inéquitables et sur la base d'aveux extorqués par la torture et les mauvais traitements. L'Organisation internationale des droits de l'homme a déclaré que les autorités saoudiennes avaient prononcé la peine capitale contre 15 autres prisonniers d'opinion. Les organisations de défense des droits de l'homme affirment que les peines arbitraires infligées par la justice saoudienne aux dissidents emprisonnés témoignent de l'étendue du mépris du royaume pour le droit international, de l'injustice endémique et des violations des droits de l'homme et des libertés civiles. Depuis que le prince héritier Mohammed bin Salman est devenu le chef de facto de l'Arabie saoudite en 2017, le royaume a arrêté des centaines de militants, blogueurs, intellectuels et autres pour leurs activités politiques. Cette démarche montre que le royaume fait preuve d'une tolérance presque nulle à l'égard des dissidents et fait la sourde oreille à la condamnation internationale qui se dit contre la répression. Des universitaires ont été exécutés et des militants des droits des femmes ont été incarcérés et torturés, alors que les autorités du royaume continuent de réprimer la liberté d'expression. Au cours des dernières années, Riyad a également redéfini ses lois antiterroristes pour cibler les activités des militants. Voilà, ainsi s'achève ce programme. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine. Thank you.
Thank you.